les podcasts du CIMI. La copropriété est-elle adaptée aux enjeux du changement climatique ? Un podcast tiré de la conférence organisée par Chevreux. L'immobilier a un fort impact sur les questions relatives au changement climatique. Les sujets susceptibles d'être traités sont multiples. Récupérer l'eau de pluie, végétaliser, utiliser les sous-sols, les rez-de-chaussée, les toits, les travaux de rénovation énergétique, le tri sélectif. La copropriété, notamment depuis la réforme du 31 octobre 2019, est-elle adaptée à ces enjeux ? L'animatrice de la conférence est Michel Ronet, notaire associé chez Chevreux. Les intervenants sont Hugues Périnet-Marquet, professeur à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas et président du CNTGI Université Paris 2. Paul Barouin, architecte pilote de l'axe évolution des tissus urbains, atelier parisien d'urbanisme à Pure. Guillaume David, fondateur de Made in Vote, études d'opinion et marketing. Et Alberto Vicoso de Gouveia, accession sociale à la propriété, Procivis.
Je laisse la parole au professeur Périnet-Marquet pour la première partie de la conférence.
Je vais vous faire un exposé juridique. Pourquoi est-ce que le bâtiment, finalement, est une des cibles du législateur en matière de réchauffement climatique ? Alors, je ne vais pas parler des effets potentiels de réchauffement climatique dans les années 2050 que tout le monde connaît, mais ce qui est certain, c'est que la production d'énergie par les bâtiments rentre dans une large mesure dans ces causes de réchauffement climatique. Donc si on veut s'attaquer efficacement au réchauffement climatique, il faut s'attaquer à l'énergie produite par les bâtiments. C'est aussi simple que ça. Et c'est donc pas uniquement pour faire économiser de l'argent aux propriétaires ou aux copropriétaires que le législateur s'est mis à légiférer, c'est aussi pour sauver la planète, rien que ça. Il le fait évidemment progressivement parce que ils se rend bien compte que c'est pas très facile, que ça touche au droit de propriété qui est un droit constitutionnellement protégé, qu'il faut donc y aller lentement. Quand on regarde, l'une des premières choses qui ont été faites, c'était en 2015, 2016 avec les décrets, c'est les fameux travaux embarqués. C'est-à-dire que quand on fait des opérations de rénovation qui touchent la façade ou la toiture, le législateur a dit, dans ce cas-là, il va être nécessaire de faire des travaux d'économie d'énergie. Et on met ici le doigt dans l'engrenage de l'obligatoire, puisque c'est bien ça qui est en jeu. C'était l'article L110-10 dans sa version initiale. Et puis, on a donc la loi énergie-climat du 8 novembre. Elle a un objectif, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030, atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à 6. Pour cela, elle a évidemment un certain nombre de leviers, puisque cette loi ne concerne pas que l'immobilier, loin de là. On a l'objectif de disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes bâtiments basse consommation ou assimilés à l'horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes. Dans cet objectif-là, qui va s'appliquer à partir de 2023, y compris d'ailleurs aux copropriétés, on va avoir l'obligation de faire un certain nombre de choses. D'abord, une obligation de publicité, c'est-à-dire d'indiquer dans la publicité, d'indiquer dans les actes de vente et dans les promesses que le bâtiment ne respecte pas la loi, ce qui est évidemment, va être relativement dissuasif. Il y a aussi une obligation qui est faite dans l'article L134-4-3. Pour les biens immobiliers à usage d'habitation, il y a une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans les diagnostics de performance énergétique. Ce qui va donc donner une indication chiffrée à l'acquéreur, ce qui n'est évidemment pas négligeable. Bon, ces obligations d'éradiquer les passoires thermiques à partir de 2023... comment est-ce qu'elles vont se réaliser? Et notamment, comment l'obligation qui est posée va être sanctionnée? Ce qui est assez sibyllin et veut dire simplement qu'il faudra attendre la parution de l'une des lois périodiques, puisqu'il doit y avoir une loi tous les 5 ans qui va indiquer comment justement cette question avance et quelles sont les sanctions qui pourront être prises. Il y a des éléments, la loi Allure, avec le fonds de travaux. Le fonds de travaux, il permet, dans les copropriétés, et il est obligatoire dans la plupart d'entre elles, d'épargner en quelque sorte 5% du budget prévisionnel. Et ces 5% du budget prévisionnel doivent être utilisés à la réalisation de travaux au sein de l'immeuble. Ici se pose une question d'ailleurs, parce que dans le projet d'ordonnance, il y avait un plan pluriannuel de travaux, et ce plan pluriannuel de travaux, qui incluait des travaux d'énergie, a disparu. La raison qui est invoquée, évidemment, les délibérations du Conseil d'État sont secrètes, on ne sait pas quel avis il a donné au gouvernement, mais ce qui semble transparaître d'un certain nombre de choses, c'est précisément que le Conseil d'État a eu peur que l'on porte trop atteinte au droit de propriété au regard du droit constitutionnel. Ce qui montre ici la difficulté de l'exercice. En ce qui concerne la gouvernance, dans l'ordonnance, nous avons une disposition intéressante qui permet de donner des pouvoirs au conseil syndical pour faire un certain nombre de choses, dont notamment des travaux, mais avec une limite quand même assez forte. Il y aura un budget qui va lui être alloué et qui pourra pas dépasser ce budget. Mais c'est quand même une disposition intéressante. Et puis, il y a bien sûr la question des majorités. Autrefois, pour avoir des travaux d'amélioration, c'était plutôt la majorité de l'article 26, donc une majorité difficile à obtenir parce que on considérait que c'était des travaux qui n'étaient pas nécessaires. Et puis, petit à petit, on a baissé les majorités et aujourd'hui, les majorités en ce qui concerne les travaux qui pourraient être des travaux d'économie d'énergie, sont des majorités très basses puisque à l'article 24, petit a, on nous dit que sont prises à la majorité des voix des présents représentés, c'est-à-dire la plus basse des majorités, les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, à la préservation de la santé et la sécurité, mais aussi ceux qui permettent d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes, et au petit b, les travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires. Alors, dans l'article 25, qui est une majorité un peu plus forte, puisque là, c'est la majorité des absolue des copropriétaires, sauf qu'il y a une passerelle qui permet de passer à une majorité de l'article 24. On a les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sauf que ici, ce sont des travaux, par hypothèse, qui ne sont pas rendus obligatoires par la loi. Donc, le choix, c'est travaux rendus obligatoires par la loi, et notamment aujourd'hui avec la loi énergie-climat, ce sera l'article 24, travaux qui seraient pas obligatoires mais qui seraient des travaux d'économie d'énergie, eh bien c'est l'article 25, il n'y a plus de travaux qui sont soumis à l'article 26, donc à la majorité des deux tiers. Alors, je vais conclure pour vous dire que finalement, vous voyez, il y a une obligation forte qui va s'appliquer, dont on ne connaît pas encore la sanction. Ce sera évidemment intéressant de voir la sanction. Et je crois qu'il y a les instruments en matière de droit de vote dans la copropriété. Il y a les instruments en matière financière pour l'essentiel. Donc, je crois que c'est pas le droit qui sera l'obstacle principal à la rénovation des copropriétés.
Alors, oui, il nous a paru intéressant de passer la parole à Paul Barouin de La Pure, qui va vous montrer quels sont justement les enjeux du changement d'échelle et de la réflexion sur la mutualisation des différents sujets en matière environnementale.
Donc, je suis pas juriste. Nous, on aborde la question de la copropriété, du droit dans la ville de façon très empirique. Mais sur la question de la mutualisation et de montrer un petit peu comment, à travers nos travaux, on pense qu'il y a des réponses qui peuvent être apportées aux enjeux climatiques à une autre échelle. Et aujourd'hui, il se traduit dans ce qui s'impose à l'avenir, des objectifs qui sont extrêmement ambitieux. Ça, c'est les objectifs de neutralité carbone pour Paris, donc neutralité carbone en 2050. Donc ça veut dire 100% d'énergie renouvelable, 20% de production locale, 50% de consommation énergétique en moins. Donc c'est des choses qui sont extrêmement ambitieuses. Et donc nous, on regarde la ville avec beaucoup de recul, et du coup, on cherche à trouver les solutions pour que tout ça puisse exister et de voir comment on peut trouver des dispositifs innovants, parce qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore complètement. Quelques chiffres pour Paris, 151 millions de mètres carrés. Aujourd'hui, c'est 62% des parcelles, les copropriétés à Paris. C'est 52% du bâti parisien, et les propriétaires uniques détiennent des surfaces importantes. Et par rapport à la façon dont on doit traiter cette question-là, nous, en tout cas, on pense qu'il y a un enjeu extrêmement important à traiter les bâtiments existants. 95% des bâtiments qui constitueront la ville de 2050 existent déjà. Et donc, c'est en ça que la question du droit de propriété doit être réinterrogée par rapport aux enjeux qui sont énormes. Alors, nous, la question de ce qu'on appelle la ville durable, se dire qu'on doit faire une ville qui a un bilan carbone positif, Je pense qu'il faut un peu changer de paradigme et aussi sortir de la performance énergétique pour essayer de regarder comment agir à toutes les échelles, à tous les niveaux pour aller vers une ville carbone. Et ça passe par plein d'actions qui sont pas uniquement la performance énergétique. Comment on optimise les usages, comment on se sert de ce qui est là, la végétalisation pour toutes ses vertus écologiques, et puis la mise en place de systèmes de mutualisation, avec l'idée qu'il y a des dispositifs qui peuvent exister aujourd'hui, qui existent parfois dans des opérations neuves, parce que la création d'opérations permet de mettre en place des choses qui existent, qui fait qu'aujourd'hui, la mutualisation est quelque chose qui est déployé dans des grandes opérations, et le juridique suit et accompagne et innove, et c'est vraiment quelque chose qui existe. L'enjeu aujourd'hui, c'est comment on fait pour traiter ce qui existe. Et donc la mutualisation, nous, on l'aborde sur plusieurs aspects. Donc déjà, il y a un sujet d'échange. On sait que il y a des productions, il y a du gaspillage, il y a des choses qui pourraient circuler entre les gens qui consomment et les gens qui produisent. Il y a une question de solidarité entre tous les gens qui composent l'espace commun qu'est la ville. Donc par rapport à ça, nous, on réfléchit toujours largement, en s'abstrayant souvent des questions juridiques et parcellaires. Et donc ce qu'on essaye de montrer, et nos travaux depuis quelques années, montre qu'il y a toute une série de potentiels qui méritent d'être exploités à l'échelle des îlots. Sur un îlot, chacun peut faire quelque chose qui peut profiter à l'autre et qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur la façon de mutualiser. Et on le voit aujourd'hui parce qu'on travaille vraiment sur ces questions-là dans le règlement, avec la question de savoir comment on fait pour qu'il se passe quelque chose. Vous avez évoqué cette question-là. Et donc, est-ce que c'est des incitations? Est-ce que c'est des aides? Quels outils juridiques on met à disposition pour que tout ça soit possible, avec une question d'urgence, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver des solutions assez vite pour que tout ça permette d'atteindre des objectifs qui sont aujourd'hui extrêmement ambitieux vu la façon dont aujourd'hui ils sont appréhendés.
Merci beaucoup de cette illustration qui vous montre combien il est important de réfléchir à l'îlot et de réfléchir plus globalement. Et en fait, je pense que ce que vous montrez, c'est que tout ça pose une question de propriété, mais surtout une question de gouvernance, c'est-à-dire comment on fait ça, comment ça marche, parce que en fait, ce que je pense profondément, c'est que oui, les sanctions, ça permet de faire bouger les choses, mais pas totalement, puisqu'on ne pourra pas tout sanctionner, et notamment, on ne pourra pas sanctionner la copropriété ou le propriétaire qui voudra pas mutualiser son jardin avec son voisin. Je pense que ça, on n'y arrivera pas. Donc, les sanctions, ça a ses limites. Les aides, je pense que ça a de plus en plus des limites. Et donc, très clairement, ce dont je suis persuadée, c'est que tout ça passe par une gouvernance et des acteurs très forts et très engagés. Alors, nous, à l'étude, il y a 3 ans de ça, on a été amené à travailler avec ICAD, avec la Caisse des dépôts, avec l'Agence parisienne du climat, sur ces problématiques de gouvernance, hein, puisque la ville de Paris est, on va dire, depuis des années, très moteur sur tous ces sujets. Je pense que la ville est une des collectivités à avoir eu un programme le plus fort de travaux de rénovation énergétique sur les copropriétés. Donc avec un, mais on voit encore aujourd'hui que on n'est pas passé à un système de masse, hein, parce que c'est vers ça auquel on doit aller. Et nous, quand on a été amené à travailler avec ce groupe, ce qu'on a constaté, c'est que c'était pas le droit qui était problématique dans tous ces sujets-là, parce que quand on voit une opération comme celle-ci, si on anticipe bien les sujets juridiques, les sujets de gouvernance, on doit pouvoir le traiter, en tout cas le modéliser d'un point de vue juridique. Si après on se dit on n'est pas sur un nouveau projet mais on est sur de l'existant, il y a des outils juridiques aujourd'hui qui permettent à des copropriétés de travailler ensemble. L'union de syndicats, c'est quelque chose qui à mon avis existe depuis la loi de 1965, qui permet à des copropriétés de s'associer ensemble pour faire des projets ensemble, gérer des équipements communs, faire de la prestation de services. Donc en fait, aujourd'hui, il y a des outils juridiques. Et je pense que c'est pas le droit en tant que tel aujourd'hui n'est pas le problème. Sur le fait de faire ensemble, travailler ensemble, aujourd'hui on a les outils juridiques. Mais malheureusement, je ne suis pas sûre que le fait d'avoir les outils juridiques suffisent. Et c'est pour ça que j'avais envie d'entendre monsieur Vissoso de Gouveia sur ce sujet-là pour vous à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que on arrive comme ça à impulser une dynamique sur toutes ces questions de développement durable.
Si on revient sur la copropriété, aujourd'hui, on a des copropriétaires qui ont des statuts très distincts. Le copropriétaire unique, l'indivision, la SCI et d'autres. On a des copropriétaires bailleurs, des copropriétaires occupants. Tout ça, c'est un melting pot qui n'a pas forcément les mêmes intérêts. Ne serait-ce qu'au sein de la copropriété, les intérêts divergents font qu'on a beaucoup de mal à avoir un projet commun. Il est évident que les bailleurs ont moins tendance être à entretenir que le propriétaire occupant, que les gens qui ont fait de la défiscalisation sont là pour 9 ans et qu'ils n'attendent qu'une chose, c'est de vendre avant que le ravalement se fasse ou d'autres travaux se fassent. Donc on a des intérêts très très divergents au sein même de la copropriété. Donc le premier point, c'est comment fédérer au sein de la copropriété. Et si on va plus loin, en termes de mutualisation, c'est oui, je vais fédérer au sein de la copropriété A, mais demain la copropriété B, est-ce qu'elle va être du même avis que moi ou autre? Donc, on a des intervenants distincts. Je pense qu'au sein de la copropriété, si on n'a pas un conseil syndical qui est moteur et conscient, on n'ira pas loin. Si on n'a pas un syndic qui est conscient et volontaire, on n'ira pas très loin. À ce sujet-là, je fais juste une parenthèse. Aujourd'hui, il existe une certification qui a été travaillée depuis 2 ans, qui s'appelle Caliesser. Et qui est destiné à regrouper et en fait à reconnaître le travail fait par un certain nombre de syndics qui s'impliquent au-delà de leur contrat type sur de la gestion de ces travaux de rénovation, des copropriétés en difficulté, voire à la limite de la difficulté, et qui s'engagent sur des process et qui sont beaucoup plus larges que ceux que l'on a aujourd'hui. Après, pour fédérer les gens, il y a 2 choses. Il faut expliquer. Il faut convaincre, et pour convaincre, le bien fondé des travaux, on convainc assez souvent, mais il faut pouvoir leur apporter des solutions adaptées à chaque situation. Après, en ce qui concerne de fédérer des copropriétés entre elles, le problème est bien plus complexe. Même si on a des conseils syndicaux investis, il nous faut absolument un opérateur externe qui va être quelqu'un de neutre, qui va aller sur la copropriété A, sur la copropriété B, le propriétaire de la villa C, et qui va pouvoir apporter ce message-là. Et pour qu'il y ait un opérateur externe, je vais aller plus loin, il faut qu'il y ait une volonté politique de mettre en place cet opérateur externe, parce que les copropriétés entre elles ne vont pas désigner un opérateur externe. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique, soit nationale, soit locale, pour dire, voilà, sur cet îlot-là, on a un projet. Maintenant, la volonté et fédérer les volontés, ça, c'est un problème qui nous dépasse, nous, aujourd'hui, professionnels.
Et donc, il va falloir traiter copropriétaire par copropriétaire. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que c'est un travail considérable. Et je pense que ça c'est un sujet qu'on avait identifié quand on avait travaillé avec l'Agence parisienne du climat et ICAD sur ce sujet. Ce sujet de gouvernance est totalement fondamental et de compétences et d'acteurs compétents est totalement fondamental. Mais aujourd'hui, on est encore vraiment aux prémices du prémice en la matière. Et personnellement, à mon sens, c'est que je pense que, et je partage totalement votre point de vue, s'il n'y a pas une volonté publique majeure en la matière, je pense qu'on ne va pas y arriver. tant l'État que la ville de Paris, qui a toujours été, on va dire, source d'inspiration, vont devoir passer à une échelle un peu plus importante, avec des acteurs privés aussi. Hein. Parce qu'en fait, ce qu'il y a de très intéressant dans ce que vous avez montré, Monsieur Barouin, c'est que, en fait, les différents types de propriétaires, le propriétaire unique, l'investisseur de bureau ou le bailleur social, eh bien, il peut aussi avoir tout intérêt justement à cette mutualisation et donc à être fédérateur aussi, à contribuer à cette fédération de copropriété. Et ayant échangé avec le ministère sur ce sujet, je pense que le ministère est assez réceptif à cette idée d'acteur, mais je pense qu'il considère que cet acteur ne peut pas être uniquement un pur acteur public, qu'on doit aussi fédérer les différents propriétaires ensemble. Donc avant de passer la parole à la salle, je vais passer la parole à Guillaume David.
Bonjour à tous, donc je suis Guillaume David, je suis le fondateur de Made in Vote, c'est une plateforme technologique d'études d'opinion et marketing. Donc on a fait cette étude, je pense que c'est bien de présenter, parce qu'on a eu effectivement le cadre juridique, le cadre légal, les contraintes techniques et la faisabilité technique, et maintenant quid de l'opinion ? Est-ce que les premiers concernés vont être plutôt facilitateurs ? Est-ce qu'ils vont s'approprier le projet et le sujet ou pas ? Donc on a fait cette étude sur les réseaux sociaux, c'est la particularité de Made in Vote, on fait des études sur les réseaux sociaux, ce qui nous permet de toucher des profils très précis. En l'occurrence, on a fait cette étude la semaine dernière auprès d'un échantillon représentatif de propriétaires d'hommes-femmes, donc on a une parité, auprès d'une répartition de classes d'âge standard aux villes que l'on a étudiées, à savoir Paris et deux autres métropoles françaises, Lille et Marseille, et avec des profils sociodémo particuliers, puisqu'on voulait une parité entre des locataires et des propriétaires, et parmi ces propriétaires, lesquels étaient aux conseils syndicaux de leur copropriété. Et puis, on a également quelques informations signalétiques sur les revenus les revenus du foyer de la population qui a été interrogée, avec une moyenne à 3000 euros par mois. Ce qu'il faut retenir, le premier sujet abordé, ça a été de mesurer la sensibilité des répondants au sujet du changement climatique. Donc globalement, on constate une maturité assez forte des populations interrogées sur ce sujet. 88% considèrent que ce sujet est important, 28% extrêmement important de manière globale. Une considération beaucoup plus importante en province. Les extrêmement importants sont à hauteur de 37% en province. Et plus spécifiquement sur l'impact du logement sur le réchauffement climatique, on a une moyenne à 68% qui sont d'accord pour admettre que leur logement a un impact sur le réchauffement climatique. En analysant les sous-populations, on voit que les plus jeunes, les 18-44 ans, sont également plus convaincus de cet impact, et les propriétaires également, sûrement dû au fait qu'ils ont plus connaissance des rouages, du fonctionnement de leur copropriété et donc des impacts de leur logement. On leur a demandé quel est selon vous l'impact de votre logement sur l'environnement. Cet impact ressort la consommation énergétique en premier lieu, de manière globale. Ensuite, c'est la contribution à l'effet de serre. Troisième position, mon logement contribue à une production de déchets, tant dans sa phase de construction pour une œuvre que dans sa phase quotidienne d'utilisation. Un impact sur l'eau, sur la consommation de l'eau, sur la pollution de l'air, sur l'épuisement des ressources et la pollution des eaux. Ce qui est intéressant à noter, c'est la différence entre la province et Paris. Paris considère que la contribution à l'effet de serre est plus importante des logements, alors qu'en province, on a la consommation d'énergie qui revient en premier. Ça peut s'expliquer aussi par des épisodes de pics de pollution beaucoup plus fréquents, et l'effet de serre ressort comme le symbole de ces pollutions. Ce qui est intéressant de noter, c'est que on voit qu'au global, il y a 74% des répondants qui anticipent le fait que gérer ces impacts, faire des travaux pour remédier à ces impacts, ça va avoir un impact sur le budget financier de leur logement, donc sur le budget de charges et le budget de travaux.
Merci Guillaume, merci à tous.